Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Avant de faire toute chose, on cherche toujours la présence de Dieu. C'est très important. On peut se précipiter à mettre en place, à dérouler le programme. Mais même quand le programme semble parfait, Dieu, s'il n'a pas approuvé, s'il n'a pas étendu sa main, tout ce qu'on pourra faire sera vain. Amen. C'est pour cela que quel que soit ce qu'on fait, même avec le peu de moyens qu'on a, on doit toujours s'assurer que Dieu est honoré en toutes choses. Très souvent, lorsque l'on va à gauche et à droite, on voit que beaucoup cherchent toujours à faire plaisir aux hommes. Mais Dieu, lui, lorsqu'il est honoré, il se manifeste toujours. Parce qu'il dit dans le livre de Samuel que « J'honore celui qui m'honore et je méprise celui qui me méprise. » Honore Dieu dans ta vie et tu verras, des choses extraordinaires arriveront. Amen. C'est très important. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi le mariage? Le mariage. Ça fait maintenant combien? 9 semaines. Hein. Ça passe vite, hein? On se rend pas compte, mais ça passe très très vite. Ça fait 9 semaines qu'on est sur ce sujet. Et tant que Dieu ne nous a pas dit d'arrêter, on n'arrête pas. Et depuis qu'on a commencé à parler de ça, il y a beaucoup de choses que le Seigneur révèle dans beaucoup de vies. Et je vous assure, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup, mais vraiment beaucoup de témoignages qui arrivent suite à cet enseignement. Et je crois que Dieu va faire encore des choses extraordinaires. Il n'a pas fini de nous étonner. Et si le Seigneur nous a dit de parler de ça, c'est parce que c'est un sérieux problème dans l'Église aujourd'hui. Le problème des fréquentations, des couples et des mariages. C'est un sérieux problème. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de gens qui sont très mal enseignés et qui ne connaissent pas la parole de Dieu en ce qui concerne le mariage. Et particulièrement au Gabon, nous sommes au Gabon. Je peux vous assurer que quand vous commencez à vous intéresser de près aux relations amoureuses, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de désordre. Et Dieu n'opère pas là où il y a le désordre. Dieu n'opère pas là où il y a le désordre. Moi, j'aspire, c'est ce que je désire le plus, c'est qu'à la Maison du Bâtisseur et même dans l'Église en général, on puisse trouver des couples bâtis sur la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Parce que Dieu bénit le mariage. Dieu bénit le mariage. Est-ce que tu peux dire amen avec moi à ça? Amen. Dieu bénit le mariage. Mais il bénit le mariage lorsque l'on fait les choses dans l'ordre. Lorsque l'on fait les choses dans l'ordre. Lorsque l'on fait les choses dans le désordre, lorsque l'on met Dieu à la seconde place, il ne faut pas s'attendre à sa faveur. Dieu est simple. Est-ce que tu dis avec moi, Dieu est simple? Il est simple. Il dit ça dans le livre d'Ecclésias, Salomon. Il dit, les commandements de Dieu sont simples, mais c'est nous qui compliquons tout. C'est écrit dans Ecclésias. Quand on voit des complications dans notre vie, le plus souvent, c'est parce qu'on a tout compliqué. C'est parce qu'on n'a pas respecté le processus. Parce qu'on n'a pas obéi à sa parole, à ses commandements. Et Jésus-Christ nous a dit que celui qui bâtit sa vie telle une maison sur sa parole est semblable à quelqu'un qui a bâti sur du roc. Mais celui qui bâtit sans écouter la parole est semblable à quelqu'un qui bâtit sur du sable. Et lorsque la tempête vient, elle souffle et la maison s'écroule. Si tu bâtis sur du sable, c'est-à-dire à côté de la parole, la maison de l'extérieur semble très très belle, mais le jour où le problème arrive, tu vas te rendre compte que là tu as bâti sur de mauvais fondements. Et le fondement, c'est très important. Et si Dieu nous dit de nous arrêter sur le sujet du mariage, c'est parce que tout simplement, c'est très sérieux le mariage. Quelqu'un a dit qu'il suffit d'une personne pour faire de ta vie un enfer ou un paradis. Je t'assure, si tu épouses la mauvaise personne, ça va être compliqué après. On peut enseigner beaucoup de choses qui excitent, on peut enseigner beaucoup de choses qui font plaisir à la chair, mais je vous assure que le sujet des relations humaines, lorsque l'on se retrouve à la maison avec la même personne du matin au soir, si on s'est trompé, c'est grave. Hein? N'est-ce pas? C'est très grave. Mais si on fait les choses dans l'ordre, en écoutant la voix du Saint-Esprit, en mettant la parole de Dieu en pratique dans sa vie, alors on aura la faveur de Dieu et on sera béni. Je t'assure, c'est vrai lorsque les sentiments s'en mêlent, lorsque les émotions s'en mêlent et qu'on aime quelqu'un, même quand on se rend compte qu'on n'a pas fait les choses dans l'ordre, ça devient compliqué parce qu'on aime la personne. Mais tu devras choisir entre la parole de Dieu ou bien cette personne. Mais si tu choisis cette personne alors que tu n'as pas respecté le protocole divin, ne t'attends pas à une quelconque intervention de Dieu dans ton foyer. Ne t'attends pas parce que Dieu ne travaille pas de cette manière. Dieu vient que là où il est honoré. C'est lorsque l'on se rend compte qu'on s'est trompé et qu'on vient devant la face de Dieu et qu'on se repent et qu'on dit « Seigneur, maintenant je fais marche arrière et je me mets en ordre avec ta parole, je m'aligne à ce que tu dis, je m'ajuste », alors là Dieu peut commencer à travailler. Si ce n'est pas ça, Dieu ne travaille pas. Parce que la religion nous a vendu un Dieu qui est doux, doudou, qu'on peut malmener n'importe comment. Un Dieu qu'on peut tromper, hein, qu'on peut tromper. Et tu vois dans des églises, comme l'église où j'étais parti avec mon épouse quelque part dans Libreville, des églises où le pasteur, l'église est remplie de 300 personnes et quand le pasteur demande que tous les couples mariés se lèvent, il n'y en a que 3 qui se lèvent. Il n'y a que 6 personnes qui se sont levées. Une église de près de 300 personnes. Il y avait un sérieux souci là. J'ai regardé mon épouse et j'ai dit, mais là c'est grave là. Là Dieu est en train de montrer au pasteur qu'il faut qu'il enseigne sérieusement sur le mariage parce que soit les restes des personnes qui sont restées assises sont toutes célibataires, soit elles vivent toutes avec quelqu'un en concubinage. Mais une chose est sûre, c'est que si elles ne se sont pas levées, c'est qu'il y a un vrai souci. Ça veut dire qu'il y a le péché dans l'église. Et quand il y a le péché dans l'église, Dieu ne travaille pas. Dieu ne travaille pas. Vous devez savoir que Dieu nous voit comme un corps. Hein? Dieu ne nous voit pas de manière individuelle. Il nous voit de manière individuelle, oui. Mais quand nous nous présentons à lui en tant qu'église, Dieu nous voit comme un corps. Et Dieu bénit le corps que nous sommes. Dieu bénit le corps. C'est pour cela que j'ai envie de te dire que même l'église où tu pries a un rôle très important dans ta destinée. Et quand tu deviens membre du corps et que tu laisses entrer le péché dans le corps, Dieu ne peut pas bénir. Mais quand Dieu trouve un corps qui est saint, pur et sanctifié, mis à part, et qu'il trouve dans ce corps des couples bâtis sur sa parole, je vous assure, Dieu fait des choses extraordinaires. Vous allez voir, à la maison du bâtisseur, il n'y aura que des couples bâtis sur la parole de Dieu, des couples qui ont été mariés sur la parole de Dieu, qui auront suivi la formation de A à Z sur le mariage, mariage 101, mariage 201 qu'on est en train de mettre en place, et les couples qu'on mariera, je vous assure, vous allez voir. Bien qu'il peut y avoir des tensions, ce seront des couples qui seront solides parce qu'ils connaîtront la parole de Dieu. Quand quelqu'un est bien enseigné dans sa vie, le jour où l'épreuve vient frapper à sa porte, il ne flanche pas parce qu'il est bien enseigné. La foi est bâtie sur les bons fondements. C'est très important. Est-ce que tu peux dire avec moi le mariage? Ouais, le mariage. Et on a dit beaucoup de choses depuis qu'on a ouvert ce thème avec le séminaire. Et on part doucement, doucement. Le Seigneur nous a mis à cœur de ne pas nous presser. Ça ne sert à rien de se dépêcher, de finir vite et puis d'enchaîner les thématiques les unes après les autres. Non, il nous fait comprendre que nous devons prendre le temps parce que tout simplement, une fois le Saint-Esprit me faisait comprendre que dans l'Église, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Et même sur Internet, les gens qui écoutent les messages, il y a beaucoup de jeunes. Entre parenthèses, je tiens à vous dire que c'est très écouté ces enseignements-là. C'est très écouté. C'est comme si on dirait chaque semaine, les gens attendent toujours la suite. Parce qu'à peine tu mets le message en ligne, le soir même tu es déjà à 50 téléchargements. Parce que les gens, ils écoutent ça. Les messages qu'on est en train d'enseigner depuis les 7 semaines ont déjà été téléchargés plus de 600 fois. Ça fait du monde, hein? Ça fait beaucoup de monde. Et il y a des gens, je vous assure, c'est un sujet qui est très, très, très important. pour eux. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Et quand on lit les témoignages des gens, il y a des gens qui disent, je cherchais à entendre ce genre de choses parce que tout simplement, j'ai des problèmes dans mon couple. On peut me parler de destinée, on peut me parler de percée, on peut me parler de prospérité, on peut me parler de tout ce que tu veux. Mais si ça ne va pas dans mon couple, ce n'est pas bon. Et là, depuis 3 semaines, on a ouvert cette page-là qu'on a intitulée « Les 21 caractéristiques du conjoint idéal selon Dieu ». Et on a dit beaucoup de choses. À qui ça fait du bien ? Hein ? Le conjoint idéal. Le conjoint idéal, je répète ce que j'ai dit depuis 2 semaines. Le conjoint idéal est parfait, n'existe pas. Hein ? Il n'existe pas. C'est à toi de le fabriquer. Dieu, c'est un faiseur de mariage. Et je vais te dire comment Dieu fonctionne. Dieu, quand tu te maries avec quelqu'un, la personne que tu épouses, elle n'est pas parfaite. En revanche, Dieu qui est le faiseur du mariage, il va te donner un fil et une aiguille. Et il va te dire maintenant, coupe et façonne la personne parfaite pour toi. Mais si tu t'attends à ce que la personne que tu as épousée soit parfaite, tu vas être très très déçu. Et c'est ce qui arrive le plus souvent. Et quand on décide de commencer à fréquenter quelqu'un, on prend la personne avec tous ses défauts. On prend la personne telle qu'elle est et on décide de commencer à cheminer avec elle. Et quand on parle des 21 caractéristiques, c'est parce que tout simplement en allant dans la parole, j'ai relevé 21 caractéristiques de la personne que l'on peut appeler le conjoint idéal. Bien entendu, tu ne retrouveras pas les 21 caractéristiques chez la même personne. Mais en entretenant une relation avec quelqu'un, tu vas devoir chercher ces choses-là. Parce que si tu ne trouves pas ces points-là, si tu ne trouves pas ces critères-là chez la personne, ça veut dire que c'est des choses à corriger. C'est des choses à relever, à mettre en avant. C'est des choses à corriger. Et on a dit que le premier critère, c'était la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la crainte de Dieu? C'est très important de s'associer, de décider de marcher, de se fiancer avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est la base de tout. Si celui avec qui tu marches n'a pas la crainte de Dieu, il risque de t'emmener à côté, entre guillemets. La crainte de Dieu. Le deuxième critère qu'on a identifié, c'est la fidélité. Est-ce qu'on peut dire avec moi la fidélité? Quelqu'un de fidèle, cherche quelqu'un de fidèle. Et la fidélité, c'est quelque chose qui est très subtil, qui ne se voit pas comme cela à l'œil nu tout de suite. La fidélité, si tu veux savoir comment faire pour juger si quelqu'un est fidèle, reste avec lui longtemps. Et tu vas voir sur le long terme si cette personne est quelqu'un de fidèle. On parle non seulement de fidélité en termes de relations humaines, mais on parle aussi de fidélité dans le cadre d'engagement. Par exemple, si tu te mets avec quelqu'un qui a l'habitude de ne pas faire plus de 3 mois dans une entreprise parce qu'il s'ennuie très vite quand il trouve un travail, tu risques d'avoir des soucis avec cette personne-là. Parce que le jour où vous allez être marié dans la maison, il va passer son temps à démissionner, il va t'apporter des problèmes financiers. Donc c'est très important de faire attention à ça. Le troisième critère, c'était la responsabilité. Est-ce qu'on peut dire avec moi la responsabilité? Ouais, c'est une grande maladie aujourd'hui dans notre société. Le manque de gens responsables. Et assure-toi, non seulement toi-même en tant que conjoint de quelqu'un d'autre, d'être responsable, mais de te mettre avec quelqu'un qui est aussi responsable, la responsabilité. Le quatrième critère, c'était quelqu'un qui cherche à te protéger et non à t'exploiter sexuellement. Est-ce qu'on peut dire avec moi le sexe? Oui, le sexe, il ne faut pas jouer avec. Parce que Dieu met le sexe à une place très, très, très importante au regard de la parole de Dieu. Et le sexe est à consommer seulement dans le cadre du mariage, pas hors mariage. Si le sexe a été consommé hors mariage, la Bible appelle ça péché. Et cela réclame repentance et ajustement à la parole de Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu ne condamne pas. Hein? Si Dieu n'a pas condamné Marie de Magdala parce qu'elle avait commis l'adultère, ce n'est pas toi qui le va condamner. Hein? Dieu ne condamne pas, mais Dieu lui dit, va et ne pêche plus. Amen. Et commence à honorer la parole de Dieu et à mettre le sexe à la bonne place. Si le partenaire avec qui tu as décidé de marcher ne comprend pas ça, eh bien, éloigne-toi de lui. Dieu te donnera quelqu'un de meilleur. Amen. Le cinquième critère, c'est que le conjoint idéal est celui qui exige que tes besoins soient comblés avant les siens. C'est quelqu'un qui pense d'abord à toi. Parce que le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est s'engager pour autrui. C'est s'engager pour l'intérêt de l'autre. C'est s'engager et accepter de mourir pour l'autre. C'est pas vivre pour toi-même. S'il y a bien un problème que l'on rencontre aujourd'hui dans les couples qui ont des conflits, c'est parce que les gens sont trop remplis d'eux-mêmes et trop imbus de leur personne. Ils refusent de mourir à eux-mêmes. Ils refusent de mourir à leur ego. Ils refusent de mourir à leurs intérêts. Alors que le mariage, c'est commencer à vivre pour l'autre. Si tu aimes suffisamment l'autre, de l'amour de Dieu, l'amour agapao, et que tu décides de l'épouser, eh bien, tu dois être prêt à abandonner tout ce qui t'est cher pour cette même personne. C'est très important. Hein? Tu peux dire, oui, il y a des gens qui te disent, oui, je suis marié avec cette personne, mais est-ce que tu es prêt à mourir pour cette personne? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour cette personne? Parce que quand tu mets la personne en question au premier plan, je t'assure, on voit toute la différence. Même quand il y a problème, quand vous recevez des couples qui ont des difficultés et que vous discutez avec eux, vous vous rendez compte très souvent qu'ils ne sont pas morts à eux-mêmes. Ils ne sont pas morts à eux-mêmes. Ne serait-ce que quand tu leur demandes, bon, demandez-vous pardon mutuellement, tu vois, c'est compliqué tout de suite. C'est compliqué tout de suite. Il exige que tes besoins soient comblés avant les siens. Le sixième critère qu'on a vu, c'est que le conjoint idéal, quand il te parle, il se focalise toujours sur tes qualités intérieures et non tes qualités extérieures. Parce que la beauté, elle est d'abord intérieure et non extérieure. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
La beauté, elle est d'abord intérieure. Donc, si tu te mets avec quelqu'un seulement pour sa beauté physique, tu risques aussi d'avoir des soucis. On ne se met pas avec quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. On se met avec quelqu'un parce qu'on a découvert la beauté intérieure de cette personne et on dit, cette personne, je peux la suivre. C'est pour cela que tu vois des couples, l'un des conjoints pourtant n'a pas l'air si beau, belle que ça. Mais tu vois que les personnes sont en osmose et cheminent ensemble, elles s'entendent parfaitement. Parce que tout simplement, elles ne regardent pas leur beauté physique. Et je t'assure, si tu te maries pour la beauté physique de ton partenaire, quand, par exemple, madame va commencer à faire les enfants, et elle va commencer à prendre du poids, la tête va commencer à grossir, les gens vont commencer à grossir, tout ça. Si tu te maries sur la base de la beauté physique, tu risques d'avoir des soucis. Oui, parce qu'on n'épouse pas quelqu'un pour ça. Le jour où la personne en question a un accident, par exemple, et sa beauté est atteinte, tu fais comment? Non, tu aimes la personne pour ce qu'elle est, pour la beauté intérieure. Quand vous allez vieillir, que la personne commencera à avoir des rides, tu feras comment? Hein? La beauté, ça dure un temps. La beauté physique dure un temps. Mais la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Et le conjoint idéal, c'est celui qui met toujours en avant tes qualités intérieures et non tes qualités extérieures. Ça, c'était le sixième critère. Le septième critère qu'on a vu, c'est qu'il parle toujours en bien de toi devant les gens quand tu n'es pas là. C'est très important, ça. Il ne te critique pas en ton absence. Là, nous sommes toujours à l'étape des fréquentations, n'est-ce pas? Et dans l'étape des fréquentations, c'est l'étape où on apprend à connaître la personne. C'est quand on pense maintenant connaître assez, suffisamment la personne, qu'on décide de se fiancer avec la personne. Parce que là, maintenant, nos émotions, on passe maintenant à la phase émotionnelle. Mais dans la phase des fréquentations, on n'aime pas encore la personne comme on doit l'aimer dans le mariage. On apprend, on la découvre. Et quand tu découvres cette personne-là, tu te rends compte que cette personne-là est quelqu'un qui t'accorde beaucoup d'importance et qui te défend beaucoup en ton absence. Le jour où tu rencontres quelqu'un comme ça, bénis le Seigneur pour ça. Mais le jour où tu te mets avec quelqu'un qui... tu découvres que cette personne parle mal de toi derrière ton dos à la première occasion, éloigne-toi de cette personne. Le huitième critère, c'est qu'il est doux et tempéré, il n'est pas colérique. C'est par ça qu'on a terminé la semaine dernière. La colère, c'est une très mauvaise chose. Si tu es avec quelqu'un qui est colérique, qui démarre au quart de tour et qui fait des dégâts quand il se met en colère, c'est quelqu'un qui a un tempérament instable. Peut-être que tu l'aimes, mais vous devez corriger ça. Parce que dans le mariage, ça peut aller très loin. Il y a des couples qui ont choisi de se mettre ensemble malgré ce problème-là qui avait pourtant été détecté et elles se retrouvent dans le mariage avec un homme qui la bat. Comment on en est arrivé là? Problème de colère, se maîtrise pas. Manque de maîtrise de soi. Et pourtant, la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et c'est très important. La personne n'est pas parfaite, mais je t'assure qu'il y a des fruits de l'esprit, il y a des comportements. Tu ne peux pas t'amuser à aller te mettre avec quelqu'un comme ça. Oui. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, j'ai reçu une dame qui me disait que l'homme avec qui elle est là-bas, il la frappe. Mais elle veut l'épouser quand même. J'ai dit, tu veux l'épouser, hein? Vas-y. Tu vas voir. Il te frappe. S'il te frappe là, mais ça va être quoi dans le mariage? Dans le mariage, tu lui appartiens. Là, il fait ce qu'il veut de toi. Oui, c'est un coléreux, c'est un colérique. C'est un colérique. Et la Bible dit, il ne faut pas marcher avec le colérique. Hein? Il ne faut pas marcher avec le colérique. Si tu te mets avec une personne qui te fait des histoires tout le temps, dès que vous n'êtes pas d'accord, tu vois comment elle commence à crier, la maison tremble. C'est dangereux. Hein? La Bible ne dit pas dans Proverbe 21:9 que vaut mieux habiter sur le toit d'une maison qu'à côté d'une femme qui est querelleuse, celle qui crie là, tout le temps. Hein? Donc voici les 8 premiers critères qu'on a vus, et puis on va essayer d'avancer parce que j'ai envie de... Je pense que la semaine prochaine, on terminera, par la grâce de Dieu, j'espère. Le 9e critère, très important, du conjoint idéal, ce qu'il faut rechercher, c'est l'autre. C'est quelqu'un d'économe et qui accorde de la valeur à l'argent. Quelqu'un qui n'est pas cupide et qui sait être responsable financièrement. L'argent, il ne faut pas jouer avec. Parce que l'argent est l'une des principales sources de conflits dans les couples. Et quand tu te mets avec quelqu'un qui est énormément dépensier, c'est quelque chose de frustrant. Amen. C'est frustrant que d'aimer quelqu'un qui n'accorde pas de valeur à l'argent, car c'est difficile de penser à faire des projets de vie avec cette personne. Tu regardes la personne et tu vois comment elle joue avec l'argent. Tu vois que cette personne a du mal à épargner. Tu vois que cette personne, pourtant vous êtes sur le point de vous marier, vous avez décidé de cheminer ensemble, mais tu vois que cette personne n'accorde pas de valeur à l'argent. Cette personne n'a pas d'intelligence financière. Cette personne a un problème au niveau financier. Je ne dis pas qu'il faut te séparer de cette personne. Je dis qu'il faut en discuter sérieusement. Parce que quand vous allez être ensemble, l'argent sera le nerf de la guerre. Et si cette personne ne sait pas utiliser son argent, ne sait pas gérer son argent, elle va te créer des problèmes. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, au verset 27, « L'homme avide d'argent attire la ruine sur sa famille. Celui qui ne se laisse pas acheter jouira d'une longue vie. » Celui qui est avide d'argent, celui qui est avide d'argent, c'est celui qui en veut tout le temps. Parce qu'il dépense et il en veut plus. Il n'est pas rassasié. Il n'est pas économe. Son dada, c'est de sortir, de dépenser. Ça, c'est celui qui est avide d'argent. Et l'une des raisons principales des conflits dans les couples chrétiens, c'est le manque d'argent. Et je t'assure que quand tu te mets avec quelqu'un qui est économe, quelqu'un qui sait gérer son argent, ça se voit. Et c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Vous n'êtes pas encore marié, mais tu vois comment il utilise l'argent. Tu vois comment il investit son argent. Tu vois comment il garde son argent. C'est quelqu'un de responsable financièrement. Amen. Et l'argent est un sujet à tension dans les foyers. Par exemple, vous avez décidé de construire une relation sérieuse ensemble et tu vois qu'au niveau de ses dépenses, c'est vrai, il n'a pas de compte à te rendre. Il n'a pas de compte à te rendre. Mais vous êtes déjà en train de préparer le mariage. Toi, tu prends ça au sérieux et tu économises parce que tu sais que le mariage, c'est une grosse dépense. Et après le mariage, il y a la vie. Mais tu te rends compte que lui, ce n'est pas son problème. Il dépense. Et ça devient des sujets de tension et de dispute entre vous. Il y a un problème. La personne avec qui tu décides de te mettre, vous devez être capable de vous asseoir et de parler argent. Peut-être pas au début de la relation, mais quand ça devient très sérieux, il faut en discuter sérieusement. Parce que si le sujet de l'argent n'est pas traité, vous allez demain être ensemble et vous allez voir que chacun va fonctionner de son côté avec ses finances. Et un couple en Christ ne fonctionne pas comme ça. Un couple en Christ se rend compte mutuellement. Tu trouves aujourd'hui des couples qui se sont mis ensemble, qui sont mariés, et tu vois que l'un cache des dépenses à l'autre. Quand il veut acheter quelque chose, il cache parce qu'il sait que s'il dit à l'autre, elle va s'énerver. On n'a pas beaucoup d'argent dans la maison, mais il va acheter un téléphone à 500 000 francs. Il fait un voyage en France, comme M. Moukala, et puis il revient avec une Western à 1500 euros. La femme dit, mais comment toi aussi? Mais chérie, je suis passé sur les Champs-Élysées, je n'ai pas pu résister, j'ai acheté. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Il a un problème avec l'argent. Toute dépense dans un couple surtout quand elle est importante, nécessite l'aval du conjoint. C'est très important. Les vrais couples en crise fonctionnent comme ça. Et dès que l'autre est mis à l'écart, ça cause des soucis, je t'assure. Même si ça ne cause pas des soucis financièrement parce que vous en avez assez, mais ça cause des soucis dans le couple parce que l'autre n'est pas d'accord. Et l'autre, financièrement, a besoin de se sentir en sécurité. Et quand il ne se sent pas en sécurité à cause de tes dépenses non maîtrisées, il y a souci. Il y a souci. J'ai même envie de dire, il faut faire attention à l'esprit de consommation. Aujourd'hui, on vit dans une société de consommation. La société autour de nous pousse tout le temps à consommer. Et lorsqu'on décide de s'engager dans le mariage avec une personne, il faut faire très attention à ça. Et les personnes qui dépensent, ce n'est pas seulement les femmes. Hein. Même les hommes aussi dépensent. Il n'y a pas que les femmes. Les femmes, elles sont championnes pour acheter leurs chaussures, leurs sacs et la dernière robe à la mode pour sortir le soir. Mais les gars aussi dépensent. Il y a des gars qui sont hyper dépensiers. Et ça, il faut faire très attention. Amen. Et l'intelligence financière, j'ai envie d'appeler ça comme ça, est quelque chose qu'il faut acquérir dans le couple. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Proverbe 17 au verset 16, « À quoi peut servir l'argent dans la main d'un sot ?»« À se procurer la sagesse ?» nous pose-t-il la question. Mais il n'a pas de tête. De qui on parle ici ? On parle de celui qui n'a pas l'intelligence financière. Et même si Dieu bénit financièrement, parce que l'un des conjoints, par exemple, occupe un poste professionnellement parlant, qui lui donne un très bon salaire à la fin du mois, cet argent, à cause du manque d'intelligence financière, ne portera pas de fruit dans le couple. Amen. Donc, le conjoint idéal, celui avec qui tu choisis de cheminer pour le restant de tes jours, doit être quelqu'un de responsable financièrement. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un acquis. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, hein. Je vous assure. L'argent, c'est quelque chose de très compliqué dans les couples quand on ne sait pas le gérer. Et c'est une source de problèmes. C'est une source de problèmes. Et je t'assure qu'avoir l'intelligence financière est quelque chose d'extrêmement utile pour l'avenir d'un couple, pour l'avenir du foyer. Quand l'un des conjoints, celui qui tient la bourse de la maison, sait garder l'argent, je t'assure, même sans t'en rendre compte, tu vois comment l'argent se multiplie parce que la personne garde l'argent. Garde l'argent. Parfois, c'est vrai, effectivement, il y a des problèmes qui peuvent survenir et, ou des situations personnelles dans la maison qui font que vous n'arrivez pas à économiser parce que tout simplement, il n'y en a qu'un qui travaille, les dépenses sont lourdes, etc. Mais c'est très important de maîtriser l'argent. Et si, dans le couple, au moment encore des fréquentations et des fiançailles, on n'a pas pris le temps de discuter de ce sujet-là, alors on rentrera dans le mariage sans avoir de vision au niveau financier. Parce que même au niveau financier, on doit avoir une vision pour la maison. Hein? C'est très important. Par exemple, tout à l'heure, je vais y revenir sur l'argent. Mais il y a des choses telles que l'achat de la future maison, par exemple. Ce n'est pas quand vous allez avoir 45 ans dans le couple que vous allez commencer à penser à acheter la maison. C'est aujourd'hui, dès que vous vous mettez ensemble, qu'il faut commencer à penser à acheter la maison ou à la construire. Et même s'il faut mettre 10 000 francs par mois de côté, ça, il faut le décider ensemble. Mais si l'autre est tout le temps en train de dépenser, vous faites comment? Si l'autre est tout le temps en train de faire sortir son argent, enfin de le claquer. Amen. Donc le conjoint idéal, le conjoint selon Dieu, est celui qui a le sens, celui qui a le sens de l'économie. C'est un économe. Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement de l'autre. Je parle aussi de toi-même parce que je rappelle, toi aussi, tu es un conjoint pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut dire amen? Le dixième critère hein, du conjoint idéal qu'il faut rechercher, c'est celui qui est humble de cœur et qui n'est pas orgueilleux. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'humilité? La Bible nous dit que l'humilité, c'est le secret de la grandeur. L'humilité est un trait de caractère très important. Fréquente quelqu'un qui est humble et non quelqu'un qui est orgueilleux. L'orgueil, ça je ne sais pas comment je vais toucher ça, mais l'orgueil, c'est quelque chose de très subtil. Il peut être manifeste et évident chez certaines personnes et beaucoup moins chez d'autres personnes. Mais l'orgueil n'est pas seulement une source de conflit. Il peut être une source de destruction massive. dans le couple, l'orgueil. La Bible nous dit dans Proverbe 15, 25, le Seigneur, est-ce qu'on peut dire comment le Seigneur, pas quelqu'un d'autre, le Seigneur, détruit la maison de l'orgueilleux, mais il protège le terrain de la veuve. Le Seigneur détruit la maison de l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui est égoïste, celui qui est centré sur lui-même. Il ne pense qu'à lui et jamais aux autres. Il est imbu de sa personne. C'est un narcissique à l'extrême. Et quand tu fréquentes un homme qui est orgueilleux, sache que ce n'est pas la nature de Dieu. Tu te mets avec un homme qui est orgueilleux, c'est un homme qui va t'amener des problèmes dans le couple. Quelqu'un d'orgueilleux est imbu de sa personne. Aujourd'hui, il peut jouer le canard qui est avec toi, mais demain, dans le couple et dans le foyer, quand le vin sera fini, vous vous rappelez de l'histoire du vin, non? Quand le vin de l'amour passionné du début finit, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à lui. C'est comme ça qu'on retrouve des conjoints qui vont voir ailleurs. On retrouve des conjoints qui ne pensent plus qu'à eux. Ils projettent que pour lui. Tu as l'impression d'être seul parce qu'il décide de fonctionner seul. C'est un narcissique. Et ça, c'est quelque chose, quand tu détectes ça alors que vous n'êtes encore que dans, vous n'êtes pas encore marié, c'est quelque chose qu'il faut mettre rapidement sur la table. Il ne faut pas hésiter à dire à celui que tu aimes et avec qui tu as décidé de te marier, tu sais, je veux te parler de quelque chose de très important. Oui, chérie, parle. C'est très important pour moi parce que quand je nous regarde, quand je regarde notre relation, quand je regarde comment tu te comportes dehors, etc., il y a des choses qui me dérangent. Je dis ça parce que je t'aime et ça me dérange parce que nous sommes dans le Seigneur. Mais je trouve que tu en fais un peu trop. Il ne faut pas dire qu'il est orgueilleux. Il faut dire autre chose. Si tu dis que tu es orgueilleux, là tu vas piquer fort tout de suite et là ça peut provoquer une discussion. Tu dis que je trouve que tu en fais un peu trop. Comment ça j'en fais un peu trop? Non, tu as une manière de faire, hein? Surtout si c'est quelqu'un, par exemple, qui au niveau professionnel a une place importante. Imagine que c'est quelqu'un qui a une position sociale importante et qui gagne beaucoup d'argent. Il dirige des gens, etc., etc. Hein? Il gonfle facilement. Tu trouves, toi personnellement, en Christ, qu'il est orgueilleux, très orgueilleux dans sa manière d'être. Il faut lui dire. Parce que dans le mariage, dans le couple, ça va vous jouer des tours. Amen. Proverbe 16, au verset 18, un verset qu'on connaît beaucoup, nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. » Proverbe 18 au verset 12 en rajoute encore une couche en disant « L'orgueil de l'homme le conduit à la faillite. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. » Si tu sais que l'orgueil conduit à la faillite, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets avec cette personne? Tu te mets avec cette personne ou bien tu arrêtes? Si tu sais que l'orgueil va vous amener des problèmes, il faut le lui dire. Parce que l'orgueil, c'est la nature du diable. Ce n'est pas la nature de Dieu. Et il y a des gens qui sont très orgueilleux. Et l'orgueil se manifeste de plusieurs manières. Il se manifeste de plusieurs manières. Celui qui a un manque d'humilité, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux pour lui-même déjà. Et Jésus-Christ insiste beaucoup sur l'humilité en disant que c'est le secret de la grandeur. L'orgueil, est-ce que tu peux dire avec moi l'orgueil? Ouais, l'orgueil. L'orgueil détruit des foyers. Une fois, j'ai reçu quelqu'un à la maison qui vient me dire qu'il est marié avec une femme, mais il voit une autre femme à l'extérieur et il a du mal à la laisser. Ça, c'est l'orgueil. Il te dit qu'il aime sa femme, hein, mais il a du mal à la laisser. Ça, c'est l'orgueil. Il faut traiter cet orgueil-là. Et Dieu détruit la maison de l'homme orgueilleux. Et si Dieu aime cette personne-là, il va le briser comme un bois jusqu'à ce qu'il comprenne. Amen. L'orgueil. Dis avec moi l'orgueil. Dis avec moi l'orgueil, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Il faut être humble dans la vie. Et celui qui est humble est celui qui, lorsqu'il est avec toi, il saura toujours t'élever. Il saura toujours t'accorder en premier de la considération. Paul nous dit ceci au sujet de l'orgueil et de l'humilité. Paul nous dit dans Philippiens 2, au verset 3, que « ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres. » Ici, j'ai envie de dire dans notre contexte, « considère l'autre comme supérieur à toi-même, comme supérieur à vous-même. » C'est très important. Et dans le couple, l'humilité a une place très importante et joue un grand rôle. Car Dieu, quand il... Regardez comment Dieu fonctionne. Ça, c'est ce que j'ai découvert avec le Seigneur dans ma marche avec lui. C'est que quand tu décides d'inviter Dieu dans ton couple, tu dis, Seigneur, prends toute la place qui t'est due dans mon couple. Voilà, on a des problèmes, j'ai des problèmes dans mon couple, Seigneur, prends toute la place. Dieu, quand il dit, ok, je viens, il vient et il chamboule tout. Il vient et il remet tout à zéro. Et quand il remet tout à zéro, il faut que tu sois prêt à accepter ça. Parce que quand il vient et qu'il trouve de l'orgueil dans le couple, il va vous briser. Il va vous briser. Et dans un couple, quand il y a de l'orgueil, vaut mieux que ce soit nous-mêmes qui corrigions ça. Que ce soit Dieu. Parce que quand c'est Dieu qui corrige l'orgueil, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait très mal. Parce que quand Dieu trouve de l'ego, c'est la première chose qu'il va viser d'abord. Parce que c'est la nature du diable. C'est une nature qui est contraire à sa nature. Donc il attaque d'abord ça. Il dit, vous êtes orgueilleux dans votre couple. Hein. Donc je vais d'abord traiter ça. Et quand il traite ça comme un chirurgien, il va en profondeur avec ses pinces. Et quand il tire ça, ça fait mal. Veille à bâtir ton couple sur l'humilité et non sur l'orgueil. Car le brisement de Dieu risque d'être très douloureux. Et regardez, Paul nous donne une image que j'ai beaucoup aimée quand j'ai vu ça dans la Bible. On va le lire ensemble. 1 Corinthiens au chapitre 3, au verset 11. C'est un passage très intéressant. Souvent, quand on lit la Bible, on passe vite dessus. Mais c'est un passage extrêmement important. 1 Corinthiens 3, au verset 11 à 14. Je prends la version Parole Vivante. Et elle dit ceci. Pour ce qui est du fondement, pas de problème. Nul ne peut poser d'autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Mais tout dépend du matériau employé pour la superstructure. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou s'il utilise du bois, du chaume ou du torchis de paille, cela se verra clairement un jour. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Amen. Le jour où le Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, quand il apparaîtra comme un brasier ardent, le feu, est-ce que tu peux dire avec moi le feu, éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction édifiée, si ton couple, ton mariage, ton foyer édifié sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. C'est une belle image. Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que le fondement sur lequel on doit bâtir l'édifice, c'est Jésus-Christ. Hein? Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus-Christ? Bâti sur Jésus. Mais si tu bâtis sur un mauvais fondement tel que l'orgueil, tu commets une grosse erreur. Et le problème qui va se poser... Enfin, ce qui risque d'arriver, c'est que quand Dieu va étendre sa main, quand il l'étend sur le foyer, quand il l'étend sur le couple, elle peut arriver telle une rosée de pluie douce, c'est ce qu'on appelle la faveur, comme elle peut arriver comme un brasier ardent et puis consumer tout ce qui ne va pas. Et quand l'orgueil est la base de votre couple, et je vais te donner des exemples pour que tu comprennes encore mieux de quoi je parle, quand l'orgueil est la base de votre couple, Dieu consomme ça. Et quand il consomme ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au sortir de l'épreuve, si ton couple tient, tant mieux, tu en seras récompensé. Mais s'il ne tient pas, certes, tu garderas ton salut, mais tu en souffriras. De quel type d'orgueil, par exemple, on peut être victime quand on décide de se mettre avec quelqu'un? Par exemple, il y a des gens qui veulent se marier, parce que personne ne s'est encore marié dans leur famille et puis ils veulent montrer qu'ils sont les premiers. Ça, c'est de l'orgueil. Il y a d'autres types de personnes, par exemple, qui veulent se marier parce que leurs parents ont dit un jour qu'ils ne se marieront jamais tant qu'eux ne seront pas d'accord. C'est de l'orgueil. Il y a des gens qui veulent se marier parce qu'ils se sentent seuls et ils veulent combler cette solitude-là en se mettant avec quelqu'un. Ils pensent qu'ils aiment la personne, mais en fait, ils le font parce qu'ils se sentent seuls. L'âge passe, les jours passent, 30 ans, 35 ans, et la personne se dit, il faut que je me marie vite. C'est de l'orgueil. Parce que tu n'es pas humble devant le Seigneur à reconnaître que tu ne dépends que de lui et non pas de la personne avec qui tu te mets. Il y a des gens qui veulent se marier parce qu'ils veulent absolument un partenaire pour faire des enfants. C'est de l'orgueil. Ils ne pensent qu'à eux d'abord. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui veulent se marier parce qu'ils voient autour d'eux d'autres personnes se marier. Et ils ont l'impression que ça a l'air cool d'être marié et eux aussi ils décident de se marier. C'est de l'orgueil. Le problème, c'est que tu t'empresses de te marier pour qu'on puisse t'appeler madame, mais le jour où le brasier ardent de Dieu arrive dans le foyer, il découvre que tu ne t'es pas marié sur les bons fondements, sur l'amour agapao appelé Christ, et il consume ça. Il révèle. Regardez ce qu'il dit. Il dit... qu'est-ce qu'il dit? Il dit... la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière. Ça veut dire que le jour où Dieu lui-même arrive, il expose. C'est-à-dire que vous avez invité Dieu, mais il va exposer. Et quand Dieu expose, il vous montre que vous êtes orgueilleux. Et il vous dit, ok, je brise ça, est-ce que vous êtes prêt? Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans leur couple qui ne veulent pas être brisés. Ils ne veulent pas se laisser changer par Dieu. Et ça fait très mal. Mais le feu du Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, il éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera quoi? La nature. Si la nature de votre couple, c'est l'orgueil, Dieu va montrer ça. Et Dieu va changer ça. Et ça fait très mal. Tu penses que tu aimes ton conjoint? C'est probablement vrai. Mais à cause de ton orgueil, ton couple peut en souffrir. Si par exemple, tu as violé la loi de départ. La loi de départ, c'est la bénédiction parentale. Si, malgré les remarques de tes parents, malgré leur désaccord, tu décides d'aller quand même, tu vas avoir une grosse surprise et te rendre compte que même si tu aimes la personne, la bénédiction dans votre foyer ne vient pas. Et votre couple s'est bâti sur de l'orgueil parce que tu es allé en frontal avec tes parents. Amen. Et le jour du Seigneur, comme dit ce verset, mettra en évidence ce que chacun aura construit. Il dit que si ton édifice sort indemne de l'épreuve, tu auras ta récompense. De quelle récompense on parle ici? Après l'épreuve, après la pluie, le beau temps. Après l'épreuve, si ton couple est resté debout, après que Dieu se soit installé dans la maison, si ton couple est resté debout, tu connaîtras les joies du mariage bâti sur l'amour divin. Amen. Et quand nous entrons dans le mariage, je tiens vraiment à insister sur ce point. Quand nous entrons dans le mariage, nous ne sommes pas parfaits. Quand nous entrons dans le mariage, nous tous, on a notre part d'orgueil, on a notre part d'ego. Et il faut savoir accepter que Dieu puisse briser cet ego-là. Parce que, laisse-moi te dire que le mariage va te briser. Je suis marié depuis 9 ans, je sais de quoi je parle. Le mariage va te briser. Le mariage, c'est beau. Il n'y a rien de plus merveilleux que le mariage. Mais pour vivre les joies du mariage, je crains qu'après ces paroles, les gens ne veulent plus se marier, non. Après, pour vivre les joies du mariage, pour vivre le mariage à son maximum, à son paroxysme, tu vas devoir accepter d'être brisé. Oui, parce que la vraie personne qui est cachée en toi, que la personne désire, que ton conjoint désire, ouais, Dieu faut qu'il fasse sortir ça. Et pour qu'il fasse sortir ça, il va devoir briser. Et le mariage, quand Dieu brise, ça fait mal. Mais là, il y a beaucoup de couples qui se séparent parce que tout simplement, ils n'ont pas supporté le brisement. Ils n'ont pas supporté le brisement. Oui. Tout comme Dieu dit à Abraham, va tuer Isaac, ton fils, ton unique. Dieu est en train de lui dire, je vais prendre ce qui était le plus cher. Et dans le mariage, tout d'un coup, tu ne sais pas comment, tu vois que le conjoint te fait quelque chose, mais qui te fait mal au plus profond de ton être. Tu ne pouvais pas imaginer que cette personne aurait pu te faire ça. Et ça te brise complètement. Et Dieu te dit, reste avec cette personne. Tu dis, non Seigneur, je ne peux pas. Dieu dit, reste avec cette personne. Il dit, si tu restes avec cette personne, tu connaîtras les jours du mariage, tu seras heureux demain. Mais si tu pars, tu en souffriras. Amen. Bâtis ton couple sur le bon fondement, Jésus-Christ, et non pas sur un autre fondement. Le 11e critère du conjoint idéal, on va avancer. Le 11e critère du conjoint idéal, c'est celui qui t'écoute et accorde beaucoup d'importance à ton opinion. L'une des principales sources de conflits dans les couples, c'est le manque de communication. Hein? Et le conjoint idéal, c'est celui qui prend le temps toujours de demander ton avis. Le jour où tu décides de marcher avec quelqu'un, la vie de cette personne compte désormais. Il y a des gens qui sont mariés et qui fonctionnent seuls. Ils décident seuls. Et à l'étape des fréquentations entre amis, c'est important de savoir ce que l'autre pense. C'est comme ça que vous commencez à construire une communication mutuelle entre vous deux. Et quand vous prenez le temps d'apprendre à parler, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à discuter, d'apprendre à ne pas décider sans l'aval de l'autre, vous allez voir que dans le mariage, ça va être beaucoup plus simple. Il y a des couples qui entrent dans le mariage et qui n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent pas à s'asseoir et à discuter. Et ça, c'est une très mauvaise chose. La Bible nous dit dans Proverbes 19, verset 14, quelque chose de très important. Là, la Bible parle de la femme, mais c'est aussi valable pour l'homme. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme, est-ce qu'on peut dire avec moi, intelligente, est un don de l'Éternel. Tu te mets avec quelqu'un qui est intelligent, tu sais que la personne est intelligente, demande-lui son avis. Demande-lui son avis. Et quand tu as un partenaire, un homme ou une femme à côté de toi qui en connaît plus que ce que tu crois, qui te connaît bien depuis un certain temps, vous êtes ensemble depuis longtemps et tu dois prendre des décisions importantes pour ta vie, mais tu ne vas pas lui demander son avis, il y a un souci. Il faut apprendre à discuter ensemble. Et quand tu te marieras demain quand tu seras marié demain, tu vas te rendre compte qu'on ne décide pas seul. Tu ne prends jamais une décision importante pour ta vie seul. Parce que l'autre compte. Si la personne avec qui tu marches depuis un certain temps, Dieu te dit que c'est une femme vertueuse, c'est une femme intelligente. Elle t'aime en plus de cela. Alors rends grâce à Dieu et prends le temps de communiquer et de lui demander son avis pour les décisions importantes de votre couple. Et le conjoint idéal, ce qu'il faut chercher quand vous commencez à construire une relation, quand vous commencez à construire une relation amoureuse, c'est d'apprendre à communiquer. Il y a des couples, quand vous les voyez, ils sont juste ensemble, c'est tout. Ils ne communiquent pas, ils ne parlent pas. Ils sont juste ensemble. Il n'y a pas de complicité. Pourtant, la complicité et l'unité, c'est quelque chose de très important pour bâtir un couple. Mais ils ne sont pas complices. Ils rentrent dans le mariage. J'ai vécu ça. Moi, j'ai vu mes parents, par exemple. Mon père, il fonctionnait seul sur beaucoup de choses. Ça faisait des problèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez les Gabonais, surtout les hommes. Là, je parle aux hommes. Ils aiment trop jouer les durs. Et si tu es avec un Gabonais, bon, tu peux être avec quelqu'un d'autre, hein, à une autre nationalité. Mais si tu es avec un Gabonais, surtout les Gabonais sont des gens qui sont des vraies têtes brûlées. Hein? Il est rigide. Seule son opinion compte. Il a toujours raison. Il pense être un descendant direct du roi Salomon et il ne fait attention à personne. Il décide tout seul. C'est moi qui commande ici dans la maison. Madame, son opinion ne compte pas. Il joue les gandos, toujours le plus fort. Ça, c'est compliqué. Et ça, c'est quelque chose que tu peux détecter dès avant le mariage. Oh, il veut toujours avoir le dernier mot, toujours avoir le dernier mot. Fais faire attention. Ça, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. C'est le roi à la maison. Amen. La Bible nous dit encore, Proverbe 31, verset 10, qui peut trouver une femme, qui peut trouver un homme vertueuse, vertueux? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Qui peut trouver une femme comme ça? Le jour où tu trouves une femme comme ça, bénis Dieu sérieusement. Bénis Dieu sérieusement. Une femme avec qui tu peux t'asseoir et parler et communiquer, ça, c'est faut rendre grâce à Dieu pour cette femme-là. Amen. Oh oui, dis avec moi la communication, c'est très important. Le 12e critère, on en est au 12e, non? Oui, le 12e critère du conjoint idéal, ce qu'il faut rechercher, c'est celui qui respecte et honore les autorités. Est-ce qu'on peut dire avec moi les autorités? Les autorités, c'est très important. Quelqu'un qui ne sait pas se soumettre aux autorités est quelqu'un qui t'attirera des problèmes demain. Dieu ne blague pas avec la soumission aux autorités. Dis avec moi les autorités. Je vais te donner une image. Quelqu'un qui, quand vous êtes ensemble, il remet toujours en question l'autorité. Quelqu'un qui a du mal à se soumettre à l'autorité. Et quand vous êtes ensemble, prenez le temps de discuter de ça. Quand tu discernes ça, parce que la personne avec qui tu décides de te mettre, c'est quelqu'un avec qui tu passes beaucoup de temps. Donc, tu commences à le connaître intimement. Et quand tu commences à le connaître intimement, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se soumettre aux autorités. C'est un problème très sérieux à traiter. Et si vous avez une intimité ensemble, tu es la meilleure personne, la mieux placée pour le lui dire. Tu as un problème avec la soumission aux autorités. Trouve les mots qu'il faut, mais il faut le lui dire. Regarde ce que la Bible nous dit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Dans Romains 13, au verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quelle est la première autorité que tu trouves dans la vie d'une personne quand tu décides de te mettre et construire une relation amoureuse avec cette personne? Ses parents. Et tu te mets avec quelqu'un, tu entretiens une relation amoureuse avec quelqu'un qui remet en question cette autorité. Quelle que soit la manière, si cette personne remet en question cette autorité, tu as en face de toi un grand danger. Tes parents peuvent être mauvais comme quoi. Si tu discernes un jour que cette personne remet en question cette autorité, il y a un souci. Parce que le manque de respect, le manque de ne pas honorer l'autorité attire automatiquement la malédiction. Et ça, il faut faire très attention. Et cela commence d'abord par le respect de tes parents. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la loi de départ. Il ne faut surtout pas, mais surtout pas, violer cette loi. Les parents jouent un rôle très important dans le mariage. Il y a des parents qui sont bien et il y a des parents qui sont plus compliqués. Mais une chose est sûre, c'est qu'il reste des parents. La femme avec qui tu veux te mettre, là, qui va la marier? C'est son père. Parce que son père est sa première autorité. Si tu n'honores pas le père comme il faut, tu vas avoir des problèmes très sérieux. Et assure-toi de ne pas violer ce principe-là. Et pour te marier, tu as besoin de la bénédiction des parents. Et si les parents ne veulent pas que tu épouses leur fille, si les parents ne veulent pas que tu épouses cet homme, malgré tout, tu vas devoir trouver un moyen pour les honorer. Et ça demande de la prière. Il y a des parents, par exemple, qui sont très compliqués et qui ne veulent pas de ce mariage. Comment tu fais? Tu vas quand même te marier, ou bien tu pries? Mais si je prie, Seigneur, je ne sais pas combien de temps je vais prier. Dieu dit, même si tu vas prier 3 ans, tu vas prier 3 ans, mais assure-toi que les parents puissent accepter ce mariage. Et il y a des couples aujourd'hui qui ont décidé de se marier malgré l'aval des parents. Et ils se retrouvent avec des blocages dans leur couple. Ils ne savent pas d'où viennent ces blocages. Et les blocages peuvent être divers et variés. Hein. Stérilité, manque de prospérité financière, des portes fermées dans la vie qui n'arrivent pas à s'ouvrir, maladie, plein de choses qui peuvent arriver. On ne comprend pas d'où ça vient. L'enfant est malade tout le temps, etc., etc. Des choses simples. Et quand tu pries, Dieu te révèle que c'est parce que vous n'avez pas honoré la loi de départ, les parents. Parce que les parents de ton conjoint vous ont maudit. Et le conjoint idéal est celui qui reconnaît l'importance des parents. Et même s'il n'est pas d'accord avec eux, parce que tu peux être avec quelqu'un qui n'arrive pas à s'entendre avec tes parents, parce que tes parents sont des gens compliqués. Malgré tout, ce conjoint doit se soumettre et accepter l'autorité des parents. Amen. Donc, fais très attention à la personne. Bien que cette personne soit vraiment quelqu'un de très bien, mais si cette personne remet toujours en question l'autorité de tes parents, alors fais très attention et vous devez corriger ça vite. Très vite. Vous vous rappelez de l'histoire du mariage que je vous avais raconté, auquel mon épouse et moi on était partis et le mariage s'était terminé en bagarre sur la pelouse. Parce que la femme narguait les parents. Elle avait, lors d'une réunion familiale, elle s'était levée et elle avait insulté avec des mots forts, des mots grossiers là, les parents, devant toute la famille. Les frères et les sœurs du marié, ils n'ont jamais digéré ça. Ils s'étaient juste dit, toi, le jour où on t'attrape, on va te faire ça dur. Et le jour du mariage, le marié est assis, elle se lève, elle commence à danser devant tout le monde. Rien à faire. Les parents sont juste là assis à la table d'honneur et elle danse devant eux. Le père est là, il regarde seulement. Il dit, la fille là, vraiment, quelle qualité de femme mon fils allait chercher. Elle danse. Et la sœur du marié se lève, obligée, se sentant obligée, se lève et vient dire à l'oreille, toi aussi, arrête tes bêtises quand même. Et je ne sais pas ce qu'elle lui répond, mais il y a juste une gifle qui part seulement. Et la bagarre commence. Et tout le monde se retrouve par terre, sur la pelouse, en train de se taper. Les parents, les cousins, tout le monde. Vous êtes juste là. Je vous assure, un mariage, c'est terrifiant. Hein? C'est très terrifiant. C'est spirituel, c'est terrifiant. Et ça, juste parce que la mariée avait déshonoré les parents. Donc ça, il ne faut pas jouer avec. Honorer les parents, oui. Il y a aussi un autre type d'autorité sur lequel je voulais venir. C'est les autorités spirituelles. Est-ce que tu peux dire avec moi les autorités spirituelles? Les autorités spirituelles jouent un rôle très important dans la vie d'une personne. Nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas en train de parler des païens ici. On parle des enfants de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu, enfants de Dieu, fils du royaume, chrétiens. Et en Christ, nous avons tous des autorités spirituelles. Et la première autorité spirituelle dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est son pasteur ou encore son père spirituel. Quand tu fréquentes quelqu'un qui a une autorité spirituelle, cette personne, étant brebis d'une église, étant brebis d'une assemblée, se fie beaucoup à cette autorité-là, dans le cadre des décisions que cette autorité prend. Parce que nous venons à l'église, par exemple, tous les dimanches, et l'autorité spirituelle joue un rôle très important. Et si tu te mets avec quelqu'un qui remet aussi en question cette autorité spirituelle-là, c'est très dangereux. Il faut faire très attention. Il y a des couples, par exemple, qui sont ensemble, ils viennent à l'église ensemble, et puis le pasteur dit quelque chose, et quand ils se retrouvent dans la voiture en partant, ils se mettent à discuter de ce que le pasteur a dit. Et puis tu vois tout d'un coup l'homme qui fait... Oh, tu sais, le pasteur, là, façon, tout ce qu'il a dit, là, façon, ça concerne les autres. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, je ne me sens pas du tout concerné. Et puis, ce n'est pas mon pasteur. Mais comment tu peux dire ça? C'est notre pasteur. C'est l'église où on va. C'est notre pasteur. Ce n'est pas mon pasteur. C'est ton pasteur. D'ailleurs, je suis parti là parce que tu étais là-bas. C'est tout. Mais ce n'est pas mon pasteur. Problème. Il y a un vrai souci. Fais attention. S'il y a bien une loi qui attire la faveur de Dieu, c'est honorer les serviteurs de Dieu. C'est très important. Et les serviteurs de Dieu, savoir les honorer en tant que couple, ça attire une grâce particulière. Quand, par exemple, j'ai vu, par exemple, dans des églises, des couples, ils ont décidé de se mettre ensemble. Ils ont décidé de se mettre ensemble. La fille s'entend très bien avec le pasteur. Elle est dans l'église depuis un certain temps. Elle rencontre un homme qui vient à l'église maintenant et il décide de commencer une relation. Les pasteurs ne sont pas au courant. Le pasteur n'est pas au courant. Ils font leur relation tranquillement. Ils organisent leur fiançailles. Ils organisent leur mariage tranquillement. Et puis quand tout est prêt, ils viennent voir le pasteur et puis ils disent au pasteur, « Pasteur, tu peux nous marier ?» Le pasteur dit, « Mais vous m'avez impliqué quand dans votre mariage ?» Et puis tu vois des problèmes comme ça. J'ai vu des problèmes comme ça où les couples se fâchent.
il ne veut pas nous marier. Voilà, nous venons dans l'église depuis longtemps et le pasteur ne veut pas nous marier, etc., etc. Tu vois, je t'avais dit ton pasteur là, etc., etc.
La Bible dit dans Timothée 5, verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, honorer les serviteurs de Dieu, honorer les autorités spirituelles, c'est une chose très importante. Et quand tu te mets avec quelqu'un dans le cadre d'une relation amoureuse et tu te découvres que cette personne-là a pour habitude de déshonorer les serviteurs de Dieu, voire les autorités spirituelles qui sont autour de vous, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer et corriger vite. Amen. C'est très important. Et quand tu te mets avec quelqu'un qui a compris ça et qui sait honorer les autorités spirituelles autour de lui, il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Par-dessus tout, si c'est quelqu'un qui sert le Seigneur en plus dans une œuvre, alors là, bénis sérieusement le Seigneur, parce que même si ce n'est pas l'homme parfait, je t'assure, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Et quand tu es avec quelqu'un qui craint Dieu, sache que c'est quelqu'un avec qui tu iras très loin. Amen. C'est très important. Et le 13e critère, je pense qu'on va terminer avec celui-là. Le 13e critère du conjoint idéal, ce qu'il faut rechercher, c'est la personne avec qui on se met, avec qui on construit une relation amoureuse et qu'on veut épouser plus tard. C'est quelqu'un qui a une vision claire de son foyer. Est-ce que tu peux dire avec moi la vision ? Ne pas avoir de vision, c'est quelque chose de très dangereux. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, quelqu'un qui n'a pas de vision claire de son foyer. La Bible nous dit dans Proverbes au verset 29, au chapitre 29, au verset 18, elle dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi de la vision. Heureux cet homme, heureux ce conjoint. Ne pas avoir de vision claire de son foyer vous conduira à vivre dans le désordre. On se laissera aller là où la vie nous amènera et on prendra les événements comme ils se présenteront à nous. Surtout pas. Tu ne t'engages pas dans une relation amoureuse avec quelqu'un s'il n'y a pas de vision claire de là où vous allez. Tu ne t'engages pas dans une relation amoureuse avec quelqu'un s'il n'y a pas de vision claire de votre mariage, de votre foyer. Tu ne t'engages pas dans une relation avec quelqu'un s'il n'y a pas de vision claire sur les 10, 15, 20, 30 ans à venir. Et le conjoint idéal, celui que tu veux épouser, est celui qui doit avoir une vision claire et surtout la même vision que toi. Et quand il n'y a pas de vision, vous devez être capable de vous asseoir et discuter. Et je m'adresse aussi aux couples mariés, même si vous êtes déjà mariés, s'il n'y a pas de vision claire, il faut savoir s'asseoir et dire, bon, où est-ce qu'on va? C'est quoi nos projets de vie? Et il faut savoir en discuter. Comment est-ce qu'on voit notre foyer? Combien d'enfants veux-tu avoir? Tu entres dans le mariage, vous n'avez jamais discuté de ça, et puis tu découvres dans le mariage qui te dit, oh, tu sais, moi, j'ai envie d'avoir qu'un enfant. Oh, comment ça, un enfant? Oui, moi, je n'ai pas envie d'avoir plus d'un enfant. Deux déjà, franchement, c'est les maux de tête. Trois, alors là, laisse tomber. Quatre, c'est tout simplement pas possible. Mais elle te dit, moi, j'ai envie d'en avoir cinq. Oh, cinq! Non. Moi, j'ai une carrière professionnelle, j'ai des choses à faire, tout ça. Non, cinq enfants, c'est compliqué, puis il faut les élever, il faut l'argent, tout ça. Il faut s'asseoir pour discuter de ça. Ou bien tu te mets avec quelqu'un, elle, son travail occupe une place très importante. C'est une avocate, tiens. Passe beaucoup de temps au travail. Vous décidez de vous marier. Elle ne rentre pas avant 19h. Parce qu'elle doit faire ses choses au niveau du travail. Et vous vous mariez. Au bout d'un certain temps, tu dis, on va avoir des enfants. Je vais avoir des enfants. Elle te dit, non. On attend. C'est une artiste. Elle chante. Elle sort des disques. Et elle te dit, non, ma carrière d'abord. J'ai pas envie d'avoir d'enfant. Parce que si j'ai un enfant, ça va stopper ma carrière tout de suite. Tu vois, non, donc pas d'enfant. Il faut discuter de ça. Si vous ne discutez pas, vous allez faire comment? Comment voyez-vous votre mariage? Comment voyez-vous votre maison? Quand est-ce que vous voulez construire ou acheter votre maison? Quand? Dans 10 ans, dans 15 ans? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment voyez-vous la gestion des finances dans le foyer? Qui va gérer la bourse? C'est toi ou c'est moi ou c'est nous deux ensemble? Comment on fait? Comment voyez-vous la place de votre travail au niveau professionnel? Je viens de le dire, si c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps au travail, le travail en premier ou la famille en premier? Comment ça se passe entre vous? Parce qu'aujourd'hui, on voit des sources de conflits dans des couples parce que l'un travaille trop. Et l'autre te dit, mais tu savais très bien que mon travail, c'était comme ça. Pourquoi aujourd'hui tu me prends la tête? Avant tu ne disais pas ça. Et maintenant qu'on est mariés, tu te plains que je rentre tard. Alors que tout le temps, tout,
le temps tu es en mission, tout le temps tu es parti. Et puis on n'a plus le temps ensemble. Donc je suis allé voir ailleurs. Oh. Mais avant tu ne te plaignais pas de ça. Oui, mais maintenant aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui on est mariés, donc moi j'ai besoin de toi à la maison. Non, on n'a pas pris le temps de discuter de ça. Et tu l'as accepté. La place des parents. Imagine que tu te mets avec quelqu'un et puis lui, ils sont très famille et les parents sont très présents. Tu as une belle-mère qui est du style, elle, quand elle arrive, elle sonne pas, elle rentre seulement dans la maison. Quand elle arrive, ton salon là, tu aurais bien acheté le noir, au lieu de prendre le rose. Franchement, elle rentre à la cuisine sans poser de questions. Ta cuisine là, ton meuble là, c'est comment? Vraiment ma fille, hein? Et puis elle te jette un regard, ta mère, je la supporte plus, franchement. Hein, c'est comme ça depuis que je te connais. Mais maintenant, aujourd'hui qu'on est mariés, c'est tout simplement plus possible. Hein? Le genre de parent qui n'attend pas de te prendre sur le côté pour te faire une remarque. Oh, ta femme là, vraiment, je lui parle tous les jours, elle ne comprend pas, etc. Fais des remarques devant tout le monde. Où est-ce qu'on met ce type de parent? Comment est-ce qu'on fait avec ce genre de parent? Oui? Ou bien tu es le genre de personne, tous les week-ends, un week-end ne peut pas passer sans qu'on aille voir les parents. Mais l'autre, il veut passer du temps ensemble avec toi. Oui, mais on n'est pas obligé d'aller voir tes parents tous les jours, tous les week-ends. Il y a des week-ends, on peut changer. Non, 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 non. Moi, je vais voir mes parents tous les week-ends. Tous les week-ends, la semaine, je ne les vois pas. Mais attends, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, non? Oui, oui, ok, on a compris, d'accord. Mais moi, ma mère, elle compte pour moi quand même, d'accord. Non, problème. Ou bien, tu sais, moi, on est ici, mais mes parents, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, je travaille, je dois leur envoyer de l'argent pour les aider. Non, 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 non. Dans notre foyer, dans notre couple, on n'a pas dit que c'était comme ça au niveau des finances. Oui, pourquoi tu prends tous les mois de l'argent pour envoyer à tes parents? Mais mes parents, là-bas, ils ne travaillent pas. J'ai besoin de les aider. Non, mais d'abord, nous, à la maison. Oui, je sais, mais j'ai besoin de leur envoyer aussi de l'argent. Non, je ne suis pas d'accord, problème. Une fois, je m'étais assis pendant 4 heures dans la maison d'un couple. Parce que la femme, au bout d'un mois, elle en avait marre et elle a demandé le divorce. Parce que monsieur passait son temps à envoyer de l'argent aux parents et ça causait des problèmes financiers dans le foyer. Et un jour, madame a dit, stop, j'en peux plus. Parce qu'ils n'arrivaient plus à rembourser le crédit de leur maison, etc. Parce que le monsieur, dès que maman appelait à la maison, chou, tu peux nous envoyer de l'argent ici? Tu sais que toi, l'euro, c'est meilleur. Alors envoie-nous l'argent. Donc, quand il envoie, il prend seulement sur le compte de la maison et puis il envoie seulement, sans demander l'aval de madame. Problème. Et c'était une source de tension dans leur couple. Et ça a fait très, très mal. Amen. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. Je voudrais que on puisse aller devant la face de Dieu. Je crois que dans tout ce qu'on a balayé, la plupart d'entre nous, on arrive à s'identifier dans certaines choses et on sait pertinemment que ce sont des sources de problèmes dans nos relations. Quand on est avec quelqu'un, quand on bâtit une relation amoureuse avec quelqu'un, il y en a d'autres, pour le moment, ils n'ont personne, ils sont seuls, gloire à Dieu. Et ce sont des choses que tu dois prendre très au sérieux parce que ce sont des situations qui se présenteront dans ton couple. Ce sont des situations qui se présenteront dans ta relation. Et je voudrais qu'on aille devant la face de Dieu et qu'on remette ça entre les mains du Seigneur et qu'on dise, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas parfait. Je reconnais que la personne avec qui je suis également n'est pas parfaite. Mais Seigneur, nous remettons notre couple entre tes mains et nous te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses corriger ce qui est à corriger, que tu puisses faire grâce là où nous avons besoin de grâce, que tu puisses nous éclairer là où nous avons besoin de lumière, que tu puisses nous enseigner là où nous avons besoin d'enseignement. Nous reconnaissons que nous n'y sommes pas encore, mais Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ que tu nous aides dans notre couple. Pour ceux qui sont mariés, même s'il y a des erreurs qui ont déjà été faites, même s'il y a des situations qui ont été vécues et jusqu'ici, des situations qui ont causé des tensions, ce n'est pas parce que vous n'en parlez plus aujourd'hui que la situation est résolue. Il faut savoir aller devant la face de Dieu et dire, Seigneur, avec mon époux et avec mon épouse, nous avons traversé telle et telle situation. Et Seigneur, si nous n'avons pas pris le temps de percer l'abcès, perce-le toi, Seigneur, et expose ce qui ne va pas. Expose toute forme d'orgueil, expose tout manque d'honneur aux autorités, expose tout manque de vision, expose tout caractère qui n'est pas le caractère de Christ, expose Seigneur tout sentiment
qui n'est pas de Dieu. Expose, Seigneur, toute situation qui ne te glorifie pas. Expose, Seigneur, toute situation qui n'honore pas Jésus-Christ. Que notre couple, Seigneur, soit à ta gloire. Que notre couple, Seigneur, te glorifie. Que notre couple, Seigneur, t'honore. Que notre couple, Seigneur, te célèbre. Que, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit éloigné et enlevé de notre couple. Accorde-moi la grâce de bâtir sur le bon fondement. Accorde-moi la grâce de bâtir sur le fondement Jésus-Christ. Et non pas sur du bois. Non pas, Seigneur, sur du chaume. Non pas sur du torchis de paille. Non pas sur de l'orgueil. Non pas, Seigneur, sur des sentiments, Seigneur, venant d'ailleurs. Mais, Seigneur, sur Christ qui est notre fondement, Seigneur. Parce que lorsque ta main, Seigneur, sera étendue sur mon couple, qu'elle ne vienne pas telle un brasier ardent, mais qu'elle vienne, Seigneur, comme une pluie de rosée, Seigneur, douce, Seigneur, appelée faveur divine. Alors je te rends grâce, Père. Je te rends grâce pour ta parole. Que, Seigneur, aujourd'hui, je fais le choix, Seigneur, de mettre en pratique dans ma vie afin de bâtir une relation amoureuse, Seigneur, saine, Seigneur. Afin de bâtir une relation amoureuse qui te glorifie, une relation amoureuse qui te célèbre, Seigneur. Parce que je veux, je désire plus que tout que mon foyer demain, Seigneur, soit à ta gloire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. À toi soit la louange, Père, pour l'œuvre que tu as commencé dans nos vies. À toi soit la gloire, Père, pour l'œuvre que tu as commencé dans mon foyer. À toi soit la gloire, Seigneur, pour ce que tu feras encore au travers de mon couple, Père, au nom de Jésus-Christ. À toi soit la louange et l'honneur. À toi soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise amen, amen, amen. À toi, le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever simplement pour acclamer le Seigneur en signe de révérence et qu'on lui rende gloire simplement pour sa parole?
Merci, Seigneur.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.